France Culture.
Bonjour le Book Club. J'ai lu les cahiers de Douai dans le cadre du bac cette année. Il y a tellement de thèmes d'adolescents tels que la découverte de l'amour, cet éveil au monde des sensations, cette envie de se révolter contre tout. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était un recueil où il était facile de s'identifier.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Automne 1870, Arthur Rimbaud a toujours 16 ans, il a écrit des poèmes pendant la fugue estivale qui l'éloigne de Charleville, il les recopie, ils seront réunis ensuite dans ce qu'on appelle le cahier de Douai. Abandonnant la poésie et tout intérêt pour ses propres écrits à l'âge de 20 ans, les recueils constitués comme tels l'ont été par d'autres et certains après sa mort. Ces 22 poèmes sont donc réunis parce qu'ils ont été composés dans un même moment de la vie de Rimbaud, dans la ville de Douai, où vivent les tantes de Georges Isambard, un ancien prof et une figure essentielle de son parcours. Le cahier de Douai figure au programme du bac français cette année. Nous l'évoquons ensemble aujourd'hui pour les lycéennes, les lycéens et pour tous les autres. Vers 15h50, nouvelle résidente dans le Book Club, c'est l'autrice Fanny Taillandier qui sort pour nous des livres en fonction de l'actu. Aujourd'hui, elle propose entre autres de relire Thomas Moore pour un peu plus d'utopie et un peu moins de marche à la guerre. Et en fin d'émission, on joue à trouver de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Ensemble pour une heure, même si on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Adrien Cavallaro.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes. Vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Vous aviez notamment co-dirigé la publication d'un dictionnaire Rimbaud paru en 2021. Merci beaucoup d'être avec nous ici au Book Club et soyez le bienvenu. Bonjour Margot Favard.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de lettres modernes. Vous avez longtemps enseigné à des classes de première au Blanc-Ménil et désormais vous le faites à Lille pour des classes préparatoires scientifiques. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Book Club aujourd'hui. Alors je l'ai dit, c'est au programme du bac français. Quand on dit ça, on dit quoi? Ça veut dire quoi, le cahier de Douai au programme du bac français? Ça prend quelle forme, cette épreuve-là? Et pourquoi c'est intéressant de souligner cette programmation?
Alors, les cahiers de Douai sont au programme du bac français, ce qui implique que les élèves vont l'étudier. C'est une des œuvres, une des quatre œuvres qu'ils vont étudier pendant l'année et qui va nourrir à la fois l'exercice du commentaire, de l'explication de texte et de la dissertation. Les élèves seront amenés, probablement, peut-être, selon le sujet qui tombe, à faire une dissertation, à réfléchir autour d'un sujet qui concerne les cahiers de Douai et l'axe du parcours associé, émancipation créatrice. Mmh. Ils peuvent être aussi, ils seront amenés, s'ils l'étudient en classe, à présenter un de ces poèmes en explication de texte lors de l'épreuve orale du bac français. Enfin, c'est aussi une des œuvres qu'ils peuvent présenter dans la partie entretien de l'oral du bac français.
Alors ça prend quoi comme forme, cette partie entretien?
Cette partie entretien vient après l'explication de texte, une question de grammaire, et le candidat peut présenter donc une des œuvres qu'il a étudiées pendant l'année, donc potentiellement les cahiers de Douai. Il doit présenter rapidement l'œuvre, et surtout, il doit insister sur les raisons de son choix. Pourquoi avoir choisi de présenter les cahiers de Douai et pas Manon Lescaut, ou les cahiers de Douai, et pas une autre lecture cursive qu'il aurait pu être amené à étudier pendant l'année.
Alors justement, peut-être je m'engouffre dans ce moment où l'élève va peut-être injecter des raisons plus intimes à sa lecture et en discuter avec la personne qui lui fait passer l'épreuve. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de programmer le cahier de Douai d'Arthur Rimbaud à destination d'élèves qui ont quoi? Ils ont 17 ans, ils ont 16 ans quand ils sont en classe de première, générale ou technologique, hein, parce que c'est pour les deux grandes sections.
Il me semble justement, vous l'avez dit, vous avez ouvert l'émission avec, sans doute c'est le vers de roman qui revient dans le poème roman « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans » qui peut être une porte d'entrée pour les lycéens, d'accroche, d'identification comme on l'entendait aussi.
Dans la voix de l'auditrice Kate, voilà, qui reviendra tout à l'heure.
C'est un poète adolescent et ce sont des élèves adolescents qui le découvrent, qui suivent sa route, ses fugues, son voyage en poésie et qui découvre la poésie parfois aussi avec lui. Et je pense que c'est cette jeunesse et la révolte aussi qui naît, qui peut les intéresser, les interpeller et leur permettre ensuite d'y trouver des pistes d'une appropriation de l'œuvre. Et c'est ce qu'on leur demande lors de l'entretien, des raisons personnelles de ce choix et non pas seulement des bouts de cours qui seraient récités à ce moment-là de l'entretien
Ça peut aller jusque là, face à l'examinateur ou l'examinatrice.
C'est même,
on peut vraiment s'engager sur des, voilà, sur des raisons, par exemple, d'identification avec la voix qu'on entend dans le poème.
Tout à fait. Maintenant, dans le format nouveau du bac français et de l'oral, c'est une des pistes proposées. On attend des raisons personnelles, c'est ce que disent les textes officiels. Mmh. Alors, ces raisons personnelles sont souvent préparées pendant l'année. Il faut qu'elles soient justifiées, expliquées.
Sincères?
On espère sincère, une belle sincérité ou une sincérité éprouvée, sans doute une sincérité préparée en tout cas au fil de l'année.
Bon, ça c'est intéressant peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent en vue de la préparation de cette épreuve-là, c'était à la fois d'examiner des choses très intimes, mais de quand même se préparer à le dire devant quelqu'un et d'avoir les outils, d'avoir éventuellement quelques phrases en poche pour pouvoir s'exprimer. Et voilà, et un petit peu d'émotion le jour-là, donc voilà, d'être un peu plus à l'aise. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, Adrien Cavallero, selon vous, de mettre le cahier de Douai d'Arthur Rimbaud à cette épreuve?
Des raisons qui ont déjà été évoquées, c'est-à-dire qu'il y a la coïncidence entre
de l'âge
entre ces élèves qui préparent l'épreuve et puis ce poète qui a exactement le même âge qu'eux et qui se trouve aussi au fond dans la même situation qu'eux au moment où il écrit ses poèmes ou il les écrit peu après. Enfin, il est en 1870 en classe de rhétorique avec ce professeur Georges Isambard qui a été évoqué tout à l'heure. Et donc la classe de rhétorique, c'est la classe à l'époque de première en fait. Donc, un poète qui peut leur parler pour cette raison, qui a ce caractère exceptionnel d'être resté alors qu'il a composé une œuvre très jeune. Et puis un poète, ça je trouve que c'est quelque chose de très important, qui existe dans l'imaginaire collectif, autrement que par des textes. C'est-à-dire que Rimbaud, c'est une grande œuvre en vers, en prose, mais c'est aussi, c'est une image. Je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ouvrent, en tout cas quand j'étais professeur en lycée, j'ouvrais mon cours de cette façon-là, en projetant simplement la photo prise par Étienne,
Carja,
et j'expliquais aux élèves que Rimbaud, c'était un des rares écrivains qu'on pouvait trouver sur des t-shirts. C'est-à-dire que, et que ça disait quelque chose de sa postérité, de la résonance que son œuvre a pu avoir, et ça peut aussi faciliter ce passage par l'image, l'identification des élèves avec ce poète, qui par d'autres aspects peut leur paraître lointain, parce que il dialogue aussi avec Victor Hugo, il dialogue avec les plus grands esprits de son temps, il n'a pas peur d'écrire aux poètes qu'il admire, et cette pratique aussi de la poésie est peut-être un peu plus éloignée de nous. Donc voilà, il y a ces deux dimensions, mais c'est toujours comme ça avec Rimbaud, l'impression d'une extrême proximité, et puis d'un autre côté, une autre dimension par laquelle il est un peu plus éloigné de nous, et là c'est le travail des professeurs que d'aider à le comprendre.
Alors j'ai dit tout à l'heure aussi dans l'introduction que ce mot « cahier de Douai », qui est le titre donc du recueil, tout autant de mots avec lesquels il faut être prudent, pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler un petit peu de la difficulté d'établir la vraie bibliographie d'Arthur Rimbaud, ses intentions éditoriales? Ça ne veut pas dire que ce sont des éléments qu'il faudra forcément dire pendant l'épreuve, mais pourquoi pas? C'est intéressant de raconter ça peut-être, Adrien Cavallero.
Oui, alors c'est une difficulté et qu'on trouve même au-delà de 1870 pour Rimbaud, puisque Rimbaud, c'est l'homme d'une seule œuvre publiée, plus tardive, qui est Une saison en enfer, et puis de quelques rares poèmes qu'il a fait paraître en revue, mais tout le reste, ce sont des publications posthumes, dont ces poèmes qui sont au programme du bac, donc cet ensemble de 22 poèmes, qui est un ensemble de textes, comme vous l'avez dit, qui a été recopié. Alors peut-être qu'il faut donner quelques circonstances ici, préciser dans quel moment Rimbaud transcrit ses textes. Donc Rimbaud commence à écrire, il écrit tout au long de l'année 1870, donc avant cette période de l'automne qui correspond à la transcription des 22 poèmes du dit cahier de Douai. Il écrit des textes, également des compositions latines, des textes en français et des textes en latin. Donc cette année est particulière parce que c'est l'année où éclate la guerre entre la France et la Prusse, à l'été, mi-juillet 1870. Et Rimbaud, si je puis dire, est en première ligne, puisqu'il se trouve dans les Ardennes, à Charleville, et donc il est directement affecté par cette guerre. Et cette guerre et d'autres considérations personnelles lui donnent l'envie de fuir. Il ne supporte pas cette ville dont il dit qu'elle est supérieurement idiote entre les petites villes de province. Il le dit à son professeur même, Georges Isambard, à la fin de l'été. Et donc il fugue, il tente d'aller à Paris. Après diverses péripéties, il se retrouve en prison à Paris puisqu'il
pour
ne paye pas. Voilà, pour vagabondage, il ne paye pas son billet, donc il se retrouve en prison. Il appelle à l'aide son professeur Isambard, qui le tire de ce mauvais pas au début du mois de septembre et qui le rapatrie non pas à Charleville, mais chez ses tantes adoptives, les demoiselles Gindre, qui habitent à Douai, pas très loin de Charleville. Et donc là, à Douai, Rimbaud coule des jours heureux. Dans cet environnement qui n'est pas le carcan familial, où il échappe à celle qu'il appelle la mother, c'est-à-dire sa mère, dont il parlera dans des termes toujours assez ambivalents, qu'une tendresse mêlée de colère. Et donc il se trouve heureux à Douai. Il fait aussi la rencontre d'un poète, qui est un ami d'Isambard et qui s'appelle Paul Démeny, appelé à une grande postérité puisqu'il est le destinataire de la lettre dite du voyant un peu plus tard. Et ce Paul Démeny, donc, est un poète.
Qui est une lettre de Arthur Rimbaud.
Voilà, une lettre d'Arthur Rimbaud, importante, qu'il envoie, où il définit un projet poétique au printemps 1871. Et donc, ce Paul Démeny est un poète qui a quelques attaches dans le milieu éditorial. Et il espère éventuellement que les liens qu'il aura avec ce Paul Démeny lui permettront d'être publié. Alors ça, du moins, on le suppose, parce qu'en fait, on ne sait pas grand-chose des circonstances dans lesquelles il a rédigé ses poèmes. On ne sait que, d'une part, qu'il existe parfois des versions antérieures. Un poème comme « Sensation » a été adressé à Théodore de Banville sous une autre forme, quelques mois auparavant. Et puis, on a des témoignages. Isambard nous raconte que Rimbaud prend copie de poèmes pour être imprimé, dit-il, mais on n'en sait pas plus. Qu'il les recopie très soigneusement.
Sachant que, par exemple, ce « pour être imprimé », puisqu'on se pose la question du désir, en fait, d'Arthur Rimbaud d'être publié, du désir d'Arthur Rimbaud de voir ses poèmes partagés, ce « pour être imprimé », les chercheurs ou les chercheuses voient qu'il n'écrit que sur un feuillet et pas au verso. Et
voilà.
Que donc, on se dit « Ah, mais s'il n'écrit que sur un feuillet et pas au verso, il reproduit ce que l'on fait en imprimerie. » Donc, il avait certainement l'intention de les réunir de cette manière-là. C'est comme ça que travaillent les chercheurs en littérature sur des indices, d'une certaine manière.
Voilà, on a assez peu d'indices, mais vous avez très bien résumé les choses. C'est-à-dire que tout ce qu'on sait, c'est que pendant cette période, et pendant une période ultérieure aussi, il a recopié un ensemble de poèmes, qu'il a remis ces poèmes à ce Paul Démeny, en une ou plusieurs fois. Ça, on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir.
D'où le cahier ou les cahiers.
Voilà, ce qu'on appelle des cahiers, en fait, ce ne sont pas des cahiers, ce sont des feuillets volants, mais qu'il a remis en une ou plusieurs fois à Paul Démeny. On n'a pas de page de titre, on n'a pas de trace d'un titre de l'auteur. Donc on parle de cahier de Douai parce que ça a été recopié à Douai, ou parfois on parle de recueil Démeny parce que ça a été remis à Paul Démeny. Donc en fait, on parle d'un ensemble matériel, mais donc on ne peut pas savoir si c'est un recueil, s'il avait l'intention d'écrire un recueil. On n'en sait rien, on ne peut pas l'affirmer. Mais on peut voir tout de même que ces 22 poèmes ont une forte cohérence thématique, qu'il y a des liens entre les textes, et que tout cela forme malgré tout un ensemble matériel. Donc ce n'est pas absolument impropre de parler de recueil, à défaut de pouvoir parler d'autre chose.
Alors, puisqu'on parle de questions, Margot Favard, puisqu'on parle d'ensemble thématique, quels sont les grands thèmes de ce recueil? On va l'appeler le cahier de Douai, et puis
oui,
voilà, on va plus mettre de guillemets à partir de maintenant.
Oui, oui, oui.
Quels sont les grands thèmes de ce recueil-là qui ont fait quand même un ensemble, dont on peut parler par exemple aujourd'hui et dont les élèves peuvent parler en classe? Et puis tout ce que vient de faire là très précieusement pour nous, Adrien Cavallaro, c'est-à-dire le contexte d'écriture, les intuitions, intentions de publication, est-ce qu'un élève ou une élève doit raconter ça pendant l'épreuve ou peut raconter ça pendant l'épreuve?
L'élève peut être amené à en parler assez succinctement tout de même, je pense, pourquoi pas dans une introduction de dissertation, peut-être aussi dans la partie entretien de l'oral, pour peu qu'il y trouve un intérêt particulier qu'il pourrait justifier.
En fait, il faut que ce soit motivé à chaque fois.
Voilà, de toute façon, tout doit être justifié, motivé, argumenté. Il me semble que dans la perspective, dans ce que nous a retracé Adrien, ce qui peut intéresser les élèves et ce qui souvent les intéresse, c'est ce trajet de la fugue, du voyage, de l'adolescent qui prépare sa grande œuvre, l'a-t-il voulu imprimer totalement ou pas? Toute cette incertitude, en fait, tout ce mythe et ce mystère Rimbaud accroche bien souvent l'attention. et révèle quelque chose de fascinant aussi dans ce poète et dans cette œuvre.
Alors, sur les grands thèmes.
Sur les grands thèmes, et justement peut-être en transition, puisque le titre est un titre générique qui n'est pas le titre de Rimbaud, il peut être intéressant pour des élèves de réfléchir à un titre alternatif, c'est-à-dire si eux devaient donner un titre au cahier de Douai qui ne soit pas un titre générique de type cahier ou poème, que donner comme titre. Et là, on peut avoir des hypothèses différentes qui peuvent être discutées et qui vont donner un éclairage et une approche différente sur l'unité ou non de ce recueil. Si on pense à la grande thématique qui est un peu suggérée par l'axe du parcours qui est émancipation créatrice.
Donc je rappelle juste, émancipation créatrice, c'est un axe qui est donné par les textes du ministère et qui est une manière de regrouper ce que vont étudier les élèves en classe de français. Je referme ça, parce que comme on va le redire plusieurs
tout
fois...
Tout à fait. Voilà. Ça implique une piste particulière qu'on suit dans l'étude de l'œuvre, en essayant de l'ouvrir au maximum, mais il faut que le travail soit orienté sur cet enjeu-là de l'émancipation créatrice. Un point d'accroche pour ça est la notion de révolte. Bien souvent, on présente aussi les cahiers de Douai comme le recueil d'un poète adolescent révolté, et ses révoltes ou ses émancipations. Cette prise de liberté, elle est sur plusieurs fronts pour Rimbaud d'une certaine manière. Il y a peut-être l'émancipation par rapport... Alors, au carcan familial, au carcan social bourgeois de Charleville, des Ardennes.
Presque géographique.
Ouais. Oui, presque géographique, puisqu'il s'agit de partir, de se mettre en route sur les chemins, de fuguer, de voyager, d'aller jusqu'à Paris, au risque de se retrouver en prison. Et donc, la piste de la révolte sociale, d'une certaine manière, familiale et sociale. La révolte politique, dont on reparlera sans doute. La critique de Napoléon III, de la guerre de 70, une forme de révolte ou d'interrogation, peut-être que le mot de révolte doit être tout de même nuancé, réfléchi par les élèves, mais en tout cas une émancipation par rapport à une certaine poésie ou un certain cliché de la poésie lyrique. Et peut-être que cette émancipation se fait aussi par la nature, le voyage justement dans la nature, qui est un des autres grands thèmes du recueil. Après la révolte sociale, politique, les formes poétiques, et puis cette révolte de la nature. Bien sûr, tout ça passe par un travail de la langue et une libération créatrice du langage poétique, que ça soit les formes ou même le vocabulaire de la poésie.
Bon, là, j'espère que tout le monde a pris des grandes notes, parce qu'en fait, c'est les grands axes que vous venez de dire, Margot Favard. Je rebondis sur la dernière chose que vous appelez, qui serait la révolte ou l'émancipation par la nature, une forme de grande sensualité qui est liée à la nature, au vivant, à la lumière, à l'herbe. Sensualité qui va aussi toucher la sexualité, l'émoi amoureux, qui est aussi présent dans le cahier de Douai. Puisque vous parlez d'une révolte par rapport à une tradition poétique, on va écouter la voix de Kate. Elle a découvert Arthur Rimbaud et le cahier de Douai là, dans son parcours scolaire, et elle vous pose des questions sur les influences littéraires.
Bonjour le Book Club. J'ai lu les cahiers de Douai dans le cadre du bac cette année, et malgré le fait que je n'étais pas une grande lectrice de poésie, j'ai vraiment compris pourquoi l'Éducation nationale avait choisi ce recueil. Il y a tellement de thèmes d'adolescents tels que la découverte de l'amour, cet éveil au monde des sensations, cette envie de s'émanciper, que ce soit de ses parents ou des normes établies. Et quant à ma question pour les deux invités, on a souvent du mal à donner un mouvement littéraire au cahier de Douai. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'influence la plus grande, selon vous, dans ce recueil ?
Merci beaucoup, Kate, pour ce témoignage de lecture. Et j'adresse tout de suite votre question à Adrien Cavallaro. Influence littéraire pour le cahier de Douai d'Arthur Rimbaud ?
Alors, si on doit réfléchir en termes d'école, Rimbaud se situe, sans lui-même embrasser cette esthétique ou cet art, par rapport à l'école parnassienne. Souvent, il y a une confusion, on dit que Rimbaud, on peut entendre ou on peut lire dans certains manuels que Rimbaud est symboliste, mais le symbolisme, c'est plus tardif, c'est dans les années 1880. Là, à l'époque où Rimbaud écrit, ce qui l'intéresse, c'est d'intégrer une nouvelle école poétique, une nouvelle pléiade qui s'appelle le Parnasse. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il envoie sa première grande lettre à un poète un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Théodore de Banville, mais qui est une sommité poétique de l'époque. Et Rimbaud espère intégrer ce Parnasse, qui est une anthologie collective qui regroupe l'avant-garde des poètes contemporains.
Ça veut dire qu'il les lit, qu'il voudrait faire partie, mais presque socialement, de ça?
Oui, à la fois socialement, et puis il voudrait très concrètement que ses poèmes soient publiés dans cette anthologie collective. Mmh. Il envoie sa lettre un petit peu trop tard à Banville, il ne sait pas que la deuxième anthologie du Parnasse contemporain est déjà... que les portes sont déjà fermées pour cette anthologie.
Mais ce faisant, pendant qu'on a dit ça, je vous coupe, mais ça veut dire qu'on a affaire à un jeune homme qui est très au fait.
Oui,
de ce qui s'écrit, de ce qui se publie, des écoles, oui. Etc. Enfin voilà, il a 16 ans, mais il connaît tout ça.
Il connaît tout ça, et on voit d'ailleurs quand il écrit à Théodore de Banville qu'il noue avec lui un dialogue par la pratique du vers. En fait, par exemple, un poème, alors qui est un poème qui est au programme, Soleil et chair, c'est un texte qui passe parfois pour une sorte de dissertation ou de pastiche du style parnassien. Dans Soleil et chair, Rimbaud fait l'éloge des dieux, bon, pour le dire très très rapidement, des dieux païens dans un monde qui aurait été gangréné par le christianisme. Alors ça, c'est un thème qui avait beaucoup occupé Théodore de Banville, qui avait écrit un poème qui s'appelle L'exil des dieux, et Rimbaud répond très précisément à Théodore de Banville, à l'exil des dieux. Donc il y a des figures aussi parnassiennes avec lesquelles il dialogue, et puis il y a des figures de grands prédécesseurs qui sont partout présents dans l'œuvre. On ne le voit pas forcément à une première lecture, par définition. En particulier la figure de Victor Hugo, mais ça je pense qu'on y reviendra.
Bon, allons-y maintenant, pour répondre à Kate.
Victor Hugo, on peut dire que dans le corpus, là, dans le cahier de Douai, on a un cycle de poèmes politiques qui sont un peu les châtiments de Rimbaud. Victor Hugo avait écrit les châtiments pour s'opposer au régime naissant de Napoléon, celui qu'il appelait Napoléon le Petit, Napoléon III. Et Rimbaud, dans des poèmes comme Le Mal, comme Mort de 92 ou de 93, ou comme Rage de César, reprend des mots de Victor Hugo, des rimes de Victor Hugo, un certain ton aussi très virulent, très offensif contre l'empereur, pour critiquer à son tour le régime. Donc il s'inscrit dans une continuité de contestation politique du régime impérial via la poésie. Mais c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre aujourd'hui, c'est que un poète comme Rimbaud, il connaît tout cela vraiment par cœur. Hein, et donc il reprend un certain nombre... utiliser telle ou telle rime, par exemple dans Ma Bohème, utiliser la rime entre fantastique et élastique, il est immédiatement perceptible pour les poètes du temps qu'il reprend une rime à Théodore de Banville et que donc il dialogue avec ce poète-là.
Mais il le fait pour dire qu'il en est, d'une certaine manière.
Voilà, pour dire qu'il en est.
Et où pour se décaler, parce que vous parliez aussi, quand on parlait des émancipations créatrices, c'est-à-dire aussi l'invention d'un nouveau territoire, d'un nouveau langage. C'est à la fois, je sais que ça existe, je connais comment ça fonctionne, je vous ai lu et j'aspire à vous rejoindre, mais aussi... j'ai l'intention d'être Arthur Rimbaud.
Voilà, j'affirme ma singularité aussi. Et d'ailleurs, ma bohème, c'est bien ma bohème. Mm. C'est-à-dire que c'est l'expression personnelle que donne Rimbaud de ce qui était un motif alors courant de la bohème littéraire. Donc les influences intertextuelles, elles sont un peu partout, en particulier dans ce moment, parce que malgré toute la qualité de son œuvre naissante, Rimbaud ici est un poète en apprentissage. Donc, il est normal aussi qu'il subisse un certain nombre d'influences, quel que soit le traitement qu'il leur réserve. Mais enfin, l'intertextualité est vraiment très marquée dans cette partie de son œuvre, en 1870.
Et ça aussi, Margot Favard, on attend d'une élève ou d'un élève qu'il ou elle le souligne et soit en mesure de faire ce que vient de faire Adrien Cavallaro, c'est-à-dire pointer les endroits où à la fois intertextualité et où influence apparaissent dans la poésie de Rimbaud.
Il est certain que des sujets de dissertation autour de l'axe émancipation créatrice amènent un candidat à réfléchir à la mesure de cette émancipation. Ce serait aller trop vite que de parler peut-être d'une révolution à ce moment-là des cahiers de Douai, ou de penser que la révolte ou l'affranchissement se fait par une opération de table rase du passé. Mm-hmm. Bien au contraire, chez Rimbaud, on a des innovations personnelles, des bohèmes personnels, et puis des références permanentes, un respect pour tous ces textes et ces poètes qu'il connaît et dont il est tout à fait nourri par l'école, par ses lectures aussi. Donc on est toujours dans un entre-deux, l'intertextualité est fondamentale, les influences sont perceptibles. Il y a un acte à la fois d'affranchissement et de révolte de Rimbaud par rapport aux anciens, mais aussi un acte de déférence par rapport à Hugo, par rapport à Baudelaire. On ne s'éloigne pas totalement de ce qui précède.
Donc quand vous dites être en mesure de mesurer l'émancipation créatrice, c'est pouvoir raconter ça, c'est-à-dire tout ce dont il serait comme ça héritier et tous les petits décalages ou les grandes inventions vers lesquelles éventuellement il se dirige.
Voilà, le respect de la tradition et puis ce qu'on va appeler une modernité poétique, dont la Vénus à Diomède pourrait être un bon exemple. Respect de la forme poétique du blason, ancestral, traditionnel de la Renaissance, et puis nouveauté de la manière de le traiter.
Parce que
Soudain, le blason de la femme aimée, ce qui serait le blason traditionnel attendu d'une partie du corps de la femme, devient là le blason d'une femme décrite comme hideuse, laide, et qui a quelque chose de monstrueux. Donc ça détourne, c'est une parodie de blason poétique, amoureux de la Renaissance, que fait là Rimbaud, et qui est un de ses poèmes les plus connus.
On va continuer de parler d'Arthur Rimbaud et du cahier de Douai juste après cette chanson des Doors, parue en 1970, c'est-à-dire pile poil 100 ans après l'écriture des poèmes du cahier de Douai. On sait l'inspiration que fut Rimbaud pour Jim Morrison. La chanson s'appelle Waiting for the Sun, en attendant le soleil. On y retrouve des thèmes dont on a déjà parlé, l'élan, la liberté, la sensualité de la lumière, chère aux jeunes poètes.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Des poèmes d'Arthur Rimbaud au programme du bac français cette année et au programme de votre Book Club cet après-midi. Le cahier de Douai, je le rappelle, regroupe 22 poèmes composés par le jeune homme en 1870. Il a fui sa ville de naissance, Charleville, et embrasse les questions politiques et littéraires de son temps. Les lire, c'est entrevoir justement comment il s'inscrit dans cette époque qui connaîtra bientôt la révolte de la Commune et voit, on l'a dit aussi, l'apogée du mouvement parnassien. On a évoqué l'œuvre de Rimbaud au début de l'émission, on a replacé ce recueil qui n'en est pas vraiment un dans l'histoire de son parcours, mais on va évoquer maintenant trois poèmes, ou plutôt deux poèmes, car le temps passe vite. L'idée, c'est évidemment de donner quelques éléments aux lycéennes et lycéens qui se préparent à passer le bac, et tout autant d'éléments à celles et ceux qui nous écoutent juste pour le plaisir. On est toujours avec vous, Adrien Cavallaro. Vous êtes spécialiste de cette œuvre d'Arthur Rimbaud, et avec vous, Margot Favard, vous êtes agrégée de lettres et vous enseigner le français. Alors, on va passer à des textes maintenant. Donc, on l'a dit, il y a 22 poèmes, on en a choisi deux. On va en entendre une lecture. Le premier poème qu'on a choisi, c'est « Au cabaret vert ». On va l'écouter dans la voix de Pierre-François Garrel. On a chopé ça dans une émission des fictions de France Culture réalisée par Sophie Haute-Picon.
Au cabaret vert, 5h du soir. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi. Au cabaret vert, je demandais des tartines, de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré.
Octobre 1870.
Au cabaret vert, c'est donc l'un des poèmes du cahier de Douai. On se lance, Adrien Cavallaro, qu'est-ce qu'on peut dire de ce poème-là ?
Alors, on peut dire beaucoup de choses, hein, évidemment. Déjà, ce qui est intéressant avec Au cabaret vert, c'est que c'est un poème qui a un ancrage autobiographique assez fort, parce que c'est un texte qui manifestement appartient à ce qu'on pourrait appeler un micro-roman des fugues. Qui formerait un petit ensemble dans ce cahier de Douai. Fugue en Belgique, en l'occurrence, le poète nous le dit, Jean XIII à Charleroi, et il le dit avec une forme d'autodérision, puisqu'il parle de lui un peu comme s'il était un soldat qui entrait dans une ville. Or, évidemment, il n'en est rien. Donc, c'est un moment, en octobre 1870, où Rimbaud fait une seconde fugue vers la Belgique. Belgique dont il faut dire que c'est un peu l'ailleurs de la France. La Belgique est un ailleurs heureux, c'est l'anti-France impériale en quelque sorte. Dans la France impériale et dans la France de Charleville, les bourgeois sont étranglés par les chaleurs, ça c'est dans à la musique. Là c'est
tout, un autre poème
voilà,
du recueil.
Qui est un autre poème du recueil. Là c'est tout le contraire, hein. C'est un poème dont on pourrait dire qu'il est un poème de l'aise, comme La Maline, qui est un autre poème belge qui le suit dans le recueil.
De l'aise au sens du repos, de la halte, quoi.
Voilà, ou des jambes sous la table. C'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Et on a la même chose dans La Maline. Je m'épatais sur mon immense chaise. Poème de la station heureuse, de la halte, dans ce cabaret vert qui a vraiment existé. Voilà pourquoi je parlais d'ancrage autobiographique, parce qu'il y a bien eu un cabaret vert à Charleroi. Et donc, on retrouve ici la convergence d'un certain nombre de thématiques qu'on trouve par ailleurs dans ce qu'on pourrait appeler les poèmes de l'idylle adolescente dans ces textes, puisqu'ici, il y a un début d'idylle avec cette fille aux tétons énormes. Rimbaud a ce vers qui est assez connu, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'est peur. Voilà. Poème magnifique. Poème de l'idylle amoureuse. Il y en a un certain nombre où le poète se présente toujours comme naïf. C'est aussi un adjectif qu'on trouve ici. Alors, naïveté, en fait, fausse naïveté. Naïveté, c'est-à-dire naturel, spontanéité, avec toujours une forme d'autodérision. Voilà.
Peut-être que ce qui est intéressant, puisque vous parlez de la station heureuse, c'est qu'on a beaucoup parlé du mouvement, de la fugue, oui, de l'en avant, de la marche. Et ça, c'est comme une sorte de contrepoint. C'est-à-dire, ça raconte qu'il y a du parcours, ça raconte qu'il y a du mouvement, mais qu'il y a aussi de l'arrêt, qu'il y a aussi du repos, qu'il y a aussi des endroits où s'arrêter d'une certaine manière.
Oui. Alors, c'est beaucoup plus tardivement, mais je pense que c'est une phrase qui entre en résonance avec les poèmes de 1870 dans un magnifique poème des Illuminations, Génie. Rimbaud parlera du délice surhumain des stations. Le délice surhumain des stations, une de ces formules splendides dont il a le secret.
Surtout pour quelqu'un qui a arrêté pour vagabondage.
Voilà, exactement.
et errance, parce qu'il est aussi beaucoup question de ça, ouais.
Voilà, et on le trouve ici, ce délice surhumain des stations, dans quelques poèmes, qui sont toujours des poèmes de l'intérieur heureux, ou alors, comme Ma Bohème, des poèmes où la nature devient elle-même une auberge. Dans Ma Bohème, c'est « Mon auberge était à la Grande Ourse, donc il dort à la Belle Étoile ». Et le poète dit qu'il s'arrête au bord des routes, exactement comme il s'arrête ici, dans le cadre de cette auberge.
Mais on est d'accord que c'est comme deux mouvements. Enfin, il y aurait l'arrêt ou le délice surhumain de la station, et puis tous les poèmes où il y a « j'irai marcher, oui, j'irai par les blés ». Enfin, quand même quelque chose du déplacement, de la fugue et de l'errance, Margot Favard.
Oui, il y a cette alternance peut-être.
Oui, pardon, c'est ça.
De, du rythme de la marche qui s'arrête régulièrement, qui est aussi ici, dans Au Cabaret Vert, une station heureuse parce qu'il y a une rencontre. Et je voulais revenir sur l'autodérision dont il a été mention, parce qu'elle est quand même régulière dans tout le cahier de Douai. Et peut-être on a là aussi la présence du rire, et du rire féminin. Très souvent, les figures féminines dans les cahiers de Douai sont des figures qui rient, soit par complicité avec le poète, soit avec une sorte de moquerie ou d'une raillerie possible qui signale encore l'autodérision du poète envers lui-même.
Comme il se présente
et comme il présente de manière naïve, aussi ingénue, ses tentatives parfois de séduction. Ici, c'est cette serveuse étonnante qui rit en lui emportant son repas. Et il me semble que ces éclats de rire, il faut aussi les entendre dans plusieurs poèmes de Rimbaud qui sont essentiels à saisir aussi cette tonalité, celle de l'adolescence, de l'éclat de rire, de la joie qui est possible. Tout n'est pas sombre dans cette fugue, bien au contraire. Il y a beaucoup de moments heureux.
Puisque vous les prêtez, ou plutôt que Arthur Rimbaud les prête aux femmes, ou cette sonorité-là aux femmes, est-ce que c'est pas aussi un jeune homme qui regarde ou qui écoute comme ça, presque étonné? Le rire, c'est aussi ce qui surgit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la découverte aussi des femmes dans le fait de pouvoir reporter les rires? C'est beau de reporter les rires d'une femme dans un poème quand on a 16 ou 17 ans.
Oui, sans doute il y a aussi l'enjeu de saisir une musicalité. Ouais. Il y a peu de paroles prêtées à ces femmes, y compris dans les fameuses réparties de Nina, qui est un autre poème du recueil. Mais le rire de ces femmes revient très souvent.
Et c'est du corps aussi.
Et c'est du corps. Chose, voilà. Et c'est ça l'autre importance, c'est que c'est du corps et c'est un son qui éclate. Et c'est l'importance de cette sensualité qui passe par le corps, bien plus que par un échange ou un dialogue amoureux sentimental.
Vous parlez d'une alternance rythmique, je vous donne tout de suite la parole. Peut-être on peut dire quelque chose aussi de la rythmique du poème en tant que tel, les choses qui avancent et les choses qui s'arrêtent. Adrien Cavallaro.
Je voulais revenir parce que c'est très intéressant ce qu'a dit Margot sur la place des femmes dans ce recueil. Et on remarquera qu'il y a une constante assez peu baudelairienne, pour le coup, c'est que ce sont les femmes ou les jeunes femmes qui mènent le jeu dans les recueils de Rimbaud et dans tous les poèmes où elles sont évoquées. Les figures féminines sont toujours des figures plus expérimentées. On a ça dans Première Soirée, on a ça dans Rêver pour l'hiver aussi. Donc l'expérience.
On a ça là aussi au Cabaret Vert.
Exactement. Et d'ailleurs, le poète est assis et la serveuse, par définition, est debout. Donc c'est une figure qui est aussi.
Surplombante,
ouais. Voilà, dominante. Et donc cette présence dans les réparties Nina, Nina n'a qu'une seule réplique, mais enfin c'est une réplique qui annule toutes les dizaines de vers que le poète a débité.
Laquelle ?
De façon justement c'est une fausse conversation dans les réparties de Nina où la figure masculine dit son rêve de se promener à la campagne et puis de revenir bras dessus bras dessous et plus si possible avec la femme aimée et puis tout ce que trouve à répondre Nina, c'est « et mon bureau ». Mon bureau, en fait, c'est probablement l'employé de bureau qu'a la ville, avec laquelle elle a une idylle à la ville. Donc en réalité, elle...
Quid de l'autre homme, quoi.
Voilà, c'est un retour sur terre assez brusque pour ce poète un peu trop idéaliste qui avait fantasmé une promenade amoureuse avec Nina. Et c'est souvent le cas, en fait, dans les poèmes de 1870.
Alors parlons un peu de la rythmique ou de la composition du poème. On l'entendait là dans la voix de Pierre-François Garrel qui a évidemment respecté la rythmique de ce poème-là. Qu'est-ce qu'on peut en dire pour Au Cabaret Vert ?
Alors un phénomène marquant, c'est vraiment le rythme qui est le plus intéressant ici. Effectivement, ce sont les enjambements qui sont mimétiques puisque le vers n'a de cesse de déborder en fait, exactement comme les jambes qui ne trouvent pas assez de place sous le fauteuil
et qui se poursuivent à la ligne donc.
Exactement, voilà. Vous voyez par exemple, bienheureux, j'allongeais les jambes sous la table verte et l'enjambement a été vraiment marqué. Alors, ici, c'est même un rejet, on a juste l'adjectif qui est rejeté au vers 6, et on a ce phénomène un peu partout, hein, en particulier dans le deuxième quatrain, je contemplais les sujets très naïfs, on trouve l'adjectif dont je parlais tout à l'heure, de la tapisserie, donc l'enjambement, ça c'est un phénomène qu'on trouve dans tous les poèmes que j'ai appelés de l'aise, qui est important aussi dans ma bohème, qui est important...
Évidemment ça aussi, l'élève lycéenne, lycéen doit pouvoir l'analyser et dire la construction.
Oui,
pendant l'épreuve, on attend ça. Pousser surtout l'interprétation, si possible, de ces phénomènes rythmiques. Ouais. Quels mots sont mis en valeur par ces enjambements? Là, avec ce qu'Adrien nous a montré, l'importance de la couleur. Hein, le monde est perçu par ses couleurs. On sait l'importance que ça aura ensuite pour Rimbaud dans l'alchimie du verbe. Les mots qui sont mis, même peut-être dans le dernier tercet, l'ail.
Ouais. Qu'on entend si bien.
L'ail, voilà, qui résonne tout d'un coup autrement et qui aussi appelle à réfléchir à l'importance du concret, puisque c'est une scène de genre ici, une scène du quotidien. Il y a une répétition assez étonnante pour un sonnet, c'est-à-dire peu de vers, et pourtant on a 3-4 fois le mot jambon. Et là, cette ail qui est mise en lumière et qui appelle quand même à réfléchir à peut-être une part d'insolence aussi hein, du jeune homme ou de l'adolescent qui a faim.
Parce que c'est sonore, vous parliez du rire aussi, mais le die en début de vers, c'est aussi quelque chose qui est très percussif presque. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur au cabaret vert? Essayez de ne pas bégayer pendant l'épreuve du bac. Mais...
Ah bah, je pense qu'on a dit, on a déjà dit beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est vraiment de situer un poème comme celui-là
dans
un ensemble et par rapport à d'autres textes. Et de faire le lien aussi avec ce que peut dire Rimbaud dans sa correspondance, qui est rare mais toujours très précieuse dans cette période-là, et notamment les lettres qu'il écrit à Georges Isambard. Il parle de son adoration pour ce qu'il appelle la liberté libre. Donc ici, c'est ce qu'on trouve dans ces poèmes-là, la liberté libre. Et puis il dit un peu avant, ça c'est à l'été 1870, fin août, qu'il a soif de bohémiennerie. Et évidemment, le mot de bohémiennerie entre en résonance avec le titre de certains poèmes et avec cette inspiration de la fugue heureuse.
Là, si vous citez la correspondance le jour du bac pour éclairer votre lecture de Au cabaret vert, on sera trop content. On écoute Rage de César, c'est un autre poème du cahier de Douai, toujours lu par Pierre-François Garrel.
Rage de César.
L'homme pâle, le long des pelouses fleuries, chemine en habit noir et le cigare aux dents. L'homme pâle repense aux fleurs des Tuileries, et parfois son œil terne a des regards ardents. Car l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. Il s'était dit « Je vais souffler la liberté bien délicatement ainsi qu'une bougie ». La liberté revit, il se sent éreinté, il est pris. Oh, quel nom sur ses lèvres muettes tressaille, quel regret implacable le mord. On ne le saura pas, l'empereur a l'œil mort. Il repense peut-être au compère en lunettes et regarde filer de son cigare en feu comme au soir de Saint-Cloud. Un fin nuage bleu.
C'est la voix de Pierre-François Garrel pour une émission des fictions de France Culture réalisée par Sophie Haute-Picon. Il lit Rage de César, c'est un des poèmes du cahier de Douai. Qu'est-ce qu'on peut dire, Margot Favard, de ce poème?
Alors, ce poème s'inscrit dans la veine satirique de Rimbaud, des cahiers de Douai, et puis dans ces poèmes qui, comme Le Mal, qui proposent une critique de Napoléon III. On peut aussi penser, on pourrait le rapprocher avec Le Dormeur du Val, qui plus explicitement va dénoncer d'une manière singulière les horreurs de la guerre. Ici, on retrouve l'empereur qui est prisonnier en Allemagne. C'est l'empereur vaincu, captif, et face à l'homme pâle et phallo qui semble aussi être assez lâche, on peut entendre avec les exclamations le cri de la jeunesse, de la liberté revit. Et donc, c'est une sorte de poème qui veut marquer aussi la fin, en tout cas espérée, vraiment attendue par le jeune Rimbaud et son époque, une partie de son époque, de Napoléon III, dans ce portrait assez féroce de l'empereur.
Oui, il y a beaucoup de points d'exclamation, il y a quelque chose comme ça de très vif dans ce poème, dès le titre d'ailleurs, hein, Rage de César, c'est pas n'importe quel titre. Ça nous permet peut-être de revenir sur l'inscription d'Arthur Rimbaud dans ce temps-là, c'est-à-dire que c'est une révolte qui est informée. On a fait tout à l'heure se croiser presque, on va le dire vraiment très vite fait, je sais pas s'il faudra l'exprimer comme ça, mais une crise d'adolescence, une fugue, un désir d'émancipation et des crises politiques. Est-ce que c'est là-dedans que s'inscrit Rage de César, Adrien Cavallaro?
Alors là, il s'inscrit vraiment avec Rage de César dans une tradition anti-bonapartiste. Et je parlais tout à l'heure de châtiment, en fait, où Rimbaud écrit quelques poèmes qui sont un peu ses châtiments.
Pour faire signe vers Victor Hugo, donc.
Pour faire signe vers Victor Hugo. Et là, c'est peut-être un des poèmes les plus hugoliens, justement, du recueil. C'est peu perceptible pour nous aujourd'hui, mais pour un lecteur des châtiments, c'est assez évident. Il reprend un certain nombre de motifs. Il représente, en fait, Napoléon III captif après la débâcle de Sedan. La débâcle de Sedan, c'est au début de septembre 1870. Napoléon III est emprisonné en Allemagne, Margot l'a dit, au château de Wilhelmshöhe.
Petite parenthèse, tout ce contexte historique est parfaitement enseigné quand on étudie le cahier de Douai en classe de français.
Une partie, oui, peut-être pas dans le détail.
Mais en tout cas, on est censé être en mesure de replacer aussi historiquement et politiquement.
Les œuvres se comprennent en contexte. Donc, il est évident qu'il y a un trajet de découverte ou d'approfondissement selon du contexte.
Historique et politique.
Oui, et de cette guerre de 1870, c'est certain.
Et là, c'est important pour comprendre, même référentiellement, le poème, parce que pourquoi est-ce qu'il est question, par exemple, de pelouse fleurie, parce que, évidemment, Napoléon III étant un empereur, il n'est pas jeté au cachot par les Prussiens, mais il a des conditions de détention qui étaient d'ailleurs largement relayées dans la presse de l'époque et qui sont assez favorables, qui sont jugées. On ironise en disant que Napoléon III n'a pas le même sort que son oncle à Sainte-Hélène. Quoi. Et donc, il se promène tous les jours, il fait des promenades, Napoléon déchu. Et c'est vraiment ce Napoléon-là qui est décrit par Rimbaud dans le premier quatrain. Alors, Rimbaud reprend à Hugo tout un tas de détails. L'habit noir, c'est l'habit du bourgeois. Donc c'est un habit qui est assez peu reluisant. C'est pas du tout l'habit du guerrier, de celui qui va remporter de grandes victoires. Et puis, il reprend aussi un certain nombre de lieux communs de la satire anti-bonapartiste et de la caricature anti-bonapartiste, notamment le goût de l'orgie et les appétits sexuels qui étaient prêtés à l'empereur. Alors ça, je m'en suis aperçu en creusant un petit peu ce poème, puisque je prépare une édition de Rimbaud, donc j'ai cherché un peu, j'ai passé au peigne fin tous les mots. Et le terme de rage, par exemple, exprime la colère, mais aussi, dans la langue érotique de l'époque, la rage désigne l'appétit sexuel. Et donc, Victor Hugo avait souvent figuré Napoléon en débauché, en fait, dans les châtiments. Et c'est aussi de cette façon-là que l'empereur est peint ici, comme regrettant ses 20 ans d'orgie. D'ailleurs, c'est dit explicitement au vers 5, l'empereur est saoul de ses 20 ans d'orgie. C'est un thème qui est celui de la fête impériale. Et qu'on retrouve de bout en bout ici, avec des personnages qui étaient familiers aux lecteurs de l'époque.
C'est exactement ce que j'allais vous dire, c'est que tout ça, tous ces sous-textes, d'une certaine manière, qui pour nous ont vraiment besoin d'être décodés par vous et par les chercheuses et chercheurs en littérature, à l'époque, c'est entendu.
Oui, parce qu'il y a la caricature politique est très vivace, est très présente, et il y a des figures qui sont immédiatement identifiables. Par exemple, le compère en lunettes. Pour nous, c'est un nom qui est totalement éloigné maintenant. C'est Émile Ollivier, en fait, qui était souvent... Émile Ollivier, c'est celui qui était devenu, disons, en quelque sorte, Premier ministre à la toute fin du Second Empire, au moment où l'Empire s'était un peu libéralisé. Et il était représenté avec un lorgnon, parce qu'il avait un strabisme assez voyant. Et donc, quand on parle de compère en lunettes, pour le lecteur de l'époque...
C'est à lui qu'on fait référence.
Voilà, on peut l'identifier de cette façon-là. Et de la même façon, toutes les difficultés physiques, les pathologies qui sont ici décrites, l'homme pâle,
l'œil mort,
voilà, tout ça, ce sont des détails qui étaient moqués, en fait, dans la presse politique de l'époque et aussi dans un certain nombre de recueils, dont les châtiments de Victor Hugo. Ce sont des termes qu'on trouve mot pour mot, en fait, dans les châtiments. C'est une façon de faire la physiologie de l'empereur, de peindre l'empereur que Rimbaud se réapproprie ici. Et qu'il radicalise en quelque sorte.
Qu'il radicalise. Voilà. Margot Favard, un dernier mot sur la composition du poème, puisqu'on a fait le travail pour Au cabaret vert.
Oui, alors ça fait aussi partie des sonnets présents dans les cahiers de Douai, qui sont très fréquents. Il y a aussi des poèmes beaucoup plus longs, comme les Réparties Nina, ou Le Forgeron, qui est un autre poème politique important et très long. Ici, le sonnet permet comme souvent une efficacité de la parole poétique. On dit en peu de mots quelque chose de très concentré et que le lecteur doit s'efforcer de déplier ou de déployer ce peut-être en observant justement les répétitions. Ici, cette figure de l'homme pâle, il peut être intéressant aussi de voir comment ce poème, pour un lecteur qui n'a pas les références historiques, peut néanmoins faire signe ou ouvrir quelque chose, je pense, dans le contraste justement entre cette pâleur, et ça se joue encore une fois sur les couleurs.
Sur les couleurs,
ouais. Avec Rimbaud, et cet empereur étonnant qui va souffler la liberté comme une bougie. Là, il y a un travail sur l'image et le discours direct qui peut être fait. Le sonnet a cette efficacité, donc, possible de ces vers. Peut-être qu'on peut s'intéresser à la manière dont le premier tercé, là aussi, sur des questions de rythme, va mettre en valeur les expressions comme « il est pris », les Tuileries, des lieux du pouvoir, qui pourraient être intéressants de commenter pour un élève.
Le book club continue, merci.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Bon, de toute façon c'est trop court, 50 minutes pour réviser le bac français, donc voilà, on ne fait que semer des petites graines. À cette heure-ci, le lundi, c'est l'heure de retrouver Lecture d'Actu. On a une nouvelle résidente dans le book club, bonjour Fanny Taillandier.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes prof agrégé de lettres?
Oui.
Vous aussi, vous avez enseigné fut un temps?
Oui.
Vous êtes romancière, vous avez publié plusieurs livres et vous avez aussi écrit dans des revues. Je peux citer par exemple un livre qui est apparu en 2018 qui s'appelait « Partout les écrans du monde » ou un livre paru en 2021 au Seuil Toujours qui s'appelait « Farouche ». Et c'est vous qui, pendant 6 semaines, allez sortir des livres de votre bibliothèque en rapport avec l'actu, l'air du temps. Bonjour Fanny et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Mais merci Marie, je suis heureuse d'être sur France Culture où je vais m'efforcer, pour faire honneur à ce beau nom, de parler de notre petit hexagone avec des livres dedans. Et puisqu'il s'agit de lecture d'actu, j'ai d'abord envisagé de lire aujourd'hui Léoton Timoroumenos, à vos souhaits. Léoton Timoroumenos, vous savez, ce poème de Charles Baudelaire qui s'applique parfaitement à Cyril Hanouna. En effet, Cyril Hanouna est devenu, en l'espace de quelques jours, à la fois victime de l'antisémitisme iconographique d'une affiche émise puis retirée par la France Insoumise, ce qui n'empêche pas la France Insoumise d'avoir été présente partout en France samedi à la marche internationale contre le racisme et le fascisme. On peut choisir de juger sur l'affiche ou sur les actes, je referme la parenthèse. Cyril Hanouna est à la fois bourreau, si l'on en croit Mediapart, qui révèle le système de, je cite, « menaces, lynchage et règlement de compte » mis en place par l'animateur télé, et enfin amoureux, selon Paris Match, qui fait sa une sur sa supposée romance avec la belle-fille du président de la République. Ça fait beaucoup pour un seul homme, et cela pourrait nous amener à Baudelaire, dont Léoton Timoroumenos, ce poème d'amour au nom imprononçable, pourrait être lyriquement déclamé par Monsieur Hanouna parce que ça lui va si bien. Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord? Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime, et le bourreau, déplorerait mélancolique et le regard perdu dans l'horizon. L'animateur de feu touche pas à mon poste.
Et ce serait beau, Fanny, ce serait beau, c'est exactement d'ailleurs comme ça qu'on l'entend souvent s'exprimer.
Mais oui, mais malheureusement l'actu est telle que nous n'avons pas le temps de nous arrêter à Monsieur Hanouna, car des choses autrement plus graves nous attendent. On le sait, le président de la République a décidé de mettre le pays en ordre de marche pour se préparer à la guerre, et oui. Tout bonnement, les éléments de communication sont en place, effort de guerre, économie de guerre, préparation à la guerre. Tout ça, on le voit bien, est avant tout une question de gros sous. Vous savez, ces sous si insaisissables, ces sous qui ferment des classes, des salles de spectacle et des lits d'hôpitaux, ces sous qui manquent pour payer les retraites et assurances chômage des travailleurs qui les ont pourtant produits, ces sous. Eh bien les voilà, ils sont revenus les sous. Nous allons pouvoir réarmer le pays. Il faut cependant rappeler, par souci d'exactitude, que depuis 2017, Emmanuel Macron a déjà doublé le budget de la défense, comme il s'en félicitait il y a quelques mois. C'est d'ailleurs le seul budget public qui a augmenté en 8 ans. Personnellement, je ne suis pas experte en défense ni en stratégie militaire. J'ai juste l'impression que je risque bien plus de mourir par manque de médecins spécialistes. Le centre hospitalier dont je dépends m'a récemment annoncé, par exemple, un délai de 1 an pour espérer prendre rendez-vous avec l'un d'eux, que par l'arrivée de chars d'assaut hostiles dans la petite ville de région centre, où j'habite actuellement. Mais peut-être que je me trompe. Je suis donc allée chercher conseil dans l'Utopie de l'anglais Thomas More, publié au début du XVIe siècle, un texte que j'aime beaucoup parce qu'il invente d'une certaine façon la politique fiction. Thomas More fait partie de ce courant qu'on a appelé l'humanisme, un courant où les questions de justice, d'égalité et de tolérance sont mises en avant, un genre de wokisme de la Renaissance, si on veut. L'Utopie est l'un des premiers textes de More et le plus connu.
Et donc, Fanny Taillandier, vous proposez de substituer à la marche à la guerre, comme vous dites, une utopie.
Pas vraiment, parce que justement, on oublie souvent qu'avant la description fictive de l'île d'Utopie, le texte s'ouvre sur un long dialogue entre l'explorateur fictif, lui aussi Raphaël, et Thomas More, à propos des gouvernements bien réels, eux, des princes européens. Raphaël, riche de son expérience de tous les pays du monde, parle notamment du gouvernement de la France. D'abord, dit-il, les princes ne songent qu'à la guerre. Ils négligent les arts bienfaisants de la paix. S'agit-il de conquérir des nouveaux royaumes ? Tout moyen leur est bon. En revanche, ils s'occupent fort peu de bien administrer les États soumis à leur domination. La France est infectée d'une peste bien désastreuse. Le sol y est entièrement couvert et comme assiégé par des troupes innombrables, enrégimentées et payées par l'État. Il a semblé à ces politiques peureux et chagrins que la sûreté de l'État exigeait une armée nombreuse, forte et constamment sous les armes. La France apprend à ses dépens le danger de nourrir cette espèce d'animaux carnassiers. Elle n'avait qu'à jeter les yeux sur les Romains, les Carthaginois et une foule d'anciens peuples. Quels fruits ont-ils retiré de ces armées immenses et toujours debout ? Le ravage de leurs terres, la destruction de leurs cités, la ruine de leur empire, dit Raphaël. Thomas More lui demande alors de conseiller le roi de France. Mais voici ce que répond le grand voyageur. Si, m'adressant au monarque lui-même, je lui faisais voir que cette passion de guerroyer qui bouleverse les nations à cause de lui, après avoir épuisé ses finances, ruiné son peuple, pourrait avoir pour la France les conséquences les plus fatales. Si je lui disais « Un roi qui aurait soulevé la haine et le mépris des citoyens et dont le gouvernement ne pourrait se maintenir que par la vexation, le pillage, la confiscation et la mendicité universelle, devrait descendre du trône et déposer le pouvoir suprême. » Si je lui disais « Sire, profitez de la paix qu'un heureux hasard vous donne. Cultivez le royaume de vos pères, faites-y fleurir le bonheur, la richesse et la force. Aimez vos sujets et ne commandez jamais en despote. Laissez là les autres royaumes, celui qui vous est échu en héritage est assez grand pour vous. Dites-moi, mon cher Thomas More, prêchez une pareille morale à des hommes qui, par intérêt et par système, inclinent à des principes diamétralement opposés. N'est-ce pas conter une histoire à des sourds ? Et à des sourds renforcés, répond Thomas More, avant de poursuivre la conversation. Peut-être dirait-on aujourd'hui des sourds réarmés.
Merci beaucoup Fanny Taillandier. Vous proposiez de relire aujourd'hui Thomas More. On mettra la référence du titre sur la page lecture d'actu franceculture.fr à la semaine prochaine. À cette heure-ci, on cherche de la musique dans les livres et là, on a presque fait l'inverse puisqu'on a été chercher, voilà, dans un texte de quelqu'un qui a été très inspiré par Arthur Rimbaud chez Patti Smith. Le titre, c'est Just Kids. Je trouvais de la consolation dans Arthur Rimbaud, que j'avais trouvé à l'étal d'un bouquiniste en face de la gare routière de Philadelphie quand j'avais 16 ans. Son regard hautain sur la couverture des illuminations accrocha le mien. Il était doté d'une intelligence irrévérencieuse qui m'enflamma et je l'adoptais comme mon compatriote, mon frère et même mon amant secret. Comme je n'avais même pas 99 cents pour acheter le livre, je l'ai fauché. Rimbaud détenait les clés d'un langage mystique que je dévorais même lorsque je ne pouvais le déchiffrer tout à fait. L'amour à sens unique que je lui portais était aussi réel que les plus vrais de mes expériences. Merci Adrien Cavallaro et Margot Favard d'avoir été avec nous pour ce book club consacré au cahier de Douai. Moi j'avais avec moi une édition pour les lycéens et lycéennes chez Folio Plus et vous aviez devant vous l'édition chez Hatier. Les deux sont à recommander et ainsi que tous les livres, par exemple le dictionnaire Rimbaud que vous avez co-dirigé.
Espérons que c'est recommandable. Au son, que je prépare aussi.
Bon, bah, j'espère pour Folio. Aussi. Au son aujourd'hui c'était Sofiane Aktib et à la réalisation Margot Page. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Vous pouvez poursuivre la conversation via le compte Instagram de l'émission.